Radio Okapi.
Il est midi juste à Kinshasa, 13h à Kisangani dans la province de la Tchopo. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Et d'abord, cette mise en garde du ministre provincial de l'économie dans le Congo central en rapport avec la vente à Matadi d'une cargaison de riz déclarée impropre à la consommation. Les services de sécurité poursuivent la traque du riz non conforme destiné à la destruction mais déchargé clandestinement dans un village situé entre Matadi et Boma. Nord Kivu, des affrontements ont repris ce lundi dans la matinée entre la coalition des groupes armés locaux et les rebelles du M23 à Kibumba et Bouumba en territoire de Nyiragongo. Pendant ce temps, une accalmie précaire s'observe dans les territoires de Massissi après une journée d'intense combat entre les deux protagonistes. Notre invité, le professeur Catherine Alirissasi Aloua, médecin directeur intérimaire de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Elle nous parle de la mise en œuvre du programme de gratuité de la maternité au sein de cette structure étatique. Mesdames, messieurs, bonjour. La vente du riz de marque Bébé se porte mal au Congo central à la suite d'un déversement sur le marché d'autres qualités de riz déclarées impropres à la consommation, notamment que la Socimex importe de la Chine. Pour dissiper tout malentendu, le ministre provincial de l'économie du Congo central a affirmé que le stock de riz de marque Bébé vendu par la Socimex est propre à la consommation. Au cours d'un point de presse tenu hier dimanche à Matadi, Roger Nimi a indiqué qu'au nombre de 740 000 sacs équivalents à 18 tonnes du riz impropre importé de la Chine, seuls 6 089 ont été abîmés par la chaleur pendant l'expédition. Mais les 733 000 sacs déchargés au port international de Matadi sont consommables. Par contre, les services de sécurité poursuivent la traque du riz non conforme destiné à la destruction, déchargé clandestinement dans un village situé entre Matadi et Boma. On écoute le ministre Roger Nimi dans ce propos recueilli par Nana Plurich Mambou.
Je confirme qu'il y avait 6 089 sacs de riz déclarés impropres à la consommation par nos services techniques cantonnés au niveau du port de Matadi. Mais tous ces sacs de riz-là ont été refoulés par nos services en suivant bien sûr la procédure légale. Mais malheureusement, nos propres frères congolais se sont transformés en services de l'État pour aller décharger encore ces mêmes riz-là qu'on a déclarés impropres à la consommation et tenter de les vendre à la population. Leur manœuvre n'a pas abouti parce que pendant qu'ils allaient commencer la manœuvre de vente de ces riz-là, nous avons commencé à intercepter ces riz-là et jusqu'à aujourd'hui, on a étouffé la vente de ces riz-là qui actuellement, peut-être certaines petites quantités se trouveraient peut-être à la forêt et c'est là qu'on allait amener au niveau de nos centres-villes ou sinon au niveau de nos villages. Toutes ces quantités-là ont été interceptées et se trouvent actuellement à Boma et à Mwanda en train d'attendre la procédure de destruction. Donc, je demande à la population de ne pas céder à la panique, que la population achète les riz.
Au Nord Kivu, des affrontements ont repris ce lundi dans la matinée entre la coalition des groupes armés locaux et les rebelles du M23 à Kibumba et Bouumba en territoire de Nyiragongo. Pendant ce temps, une accalmie précaire s'observe dans les territoires de Massissi après une journée d'intense combat entre les deux protagonistes. Denise Lukeso nous fait le point.
Un notable de Nyiragongo indique que les M23 auraient lancé une attaque à Kalake dans le parc à l'ouest de Kibumba où ils cherchent à s'effrayer un passage pour déboucher vers Mutao, groupement de Kibati, environ 12 km de la ville de Goma. Les combats sont en cours et des détonations à l'arme lourde sont entendues, affirme ce chef. Alors qu'un calme règne dans le territoire de Massissi, après la journée d'hier marquée par des violents combats qui ont opposé les groupes armés locaux au M23, des combats qui se sont déroulés dans quatre villages, Nyakabingu, Kabalekesha, Burungu et Kachebeche notamment. Les rebelles ont lancé ces attaques dans le but de couper les trafics entre Kichanga et Goma, mais également envie de reprendre leurs anciennes positions jusqu'à Kilolirwe, selon les sources dans le Massissi. À l'issue de ces combats, les villages Nyakabingu, Kabalekesha et Burungu sont passés sous occupation des rebelles. Les quelques civils retournés de ces villages se sont déplacés de nouveau vers Kichanga et les villages périphériques de Burungu sur l'axe Nyamitaba. Les trafics sur l'axe Kichanga Kilolirwe reste coupé, affirme des sources à Kichanga. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Et puis, 6 morts, 8 blessés graves, des cases incendiées, des déplacements massifs de population. Tel est le bilan provisoire des affrontements samedi et hier dimanche entre les habitants des deux villages voisins à 25 km de Kisangani sur la rive gauche du fleuve Congo. Nous sommes dans la province de la Tchopo. Au cours d'une réunion d'urgence du comité provincial de sécurité hier dimanche, dans la soirée, des mesures urgentes ont été prises dans la perspective de rétablir l'ordre et de traduire devant la justice toutes les personnes impliquées dans ces incidents malheureux. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Par rapport à ces affrontements sanglants, le comité provincial de sécurité a tenu hier une réunion d'urgence dans la soirée. Dans un communiqué publié au terme de cette rencontre, le porte-parole de Madame le gouverneur éclaire l'opinion au sujet des causes de ce drame et des mesures sécuritaires prises à ce sujet. D'après ce document signé par le docteur Mathéus Kanga, trois personnes travaillant dans une ferme d'un particulier à Batiamutengo ont été prises pour cible par la population locale. Elles ont été copieusement molestées avant d'être exfiltrées par la police. Ensuite, une affaire sentimentale ou de jalousie a occasionné une confrontation directe entre le village précité et celui de Yalisombo. Le comité provincial de sécurité note que ce désordre est orchestré par des personnes qui cherchent à tout prix à embraser la province. Par conséquent, il exhorte la population à collaborer avec les forces de sécurité. En même temps, il demande à ces dernières de rechercher toutes les personnes impliquées dans ces incidents afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Non à la désinformation ou fake news au profit des politiciens. C'est l'essentiel du message de sensibilisation des deux journées de sensibilisation des jeunes sur la désinformation en cette période électorale organisée samedi et hier dimanche par l'association des scouts de l'Ituri. Selon les organisateurs, l'objectif est d'éveiller à la conscience des jeunes pour ne plus tomber dans le discours démagogique de certains candidats aux élections du 20 décembre prochain. Des détails avec Martial Kizabiamungu.
Une vingtaine de jeunes venus de différentes associations ont pris part à ces deux jours de renforcement des capacités sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine pendant la campagne électorale qui s'annonce. Selon François Kassereka, commissaire provincial des scouts à l'Ituri, les jeunes doivent démontrer plus de responsabilité et discernement en cette période électorale pour ne pas tomber dans la manipulation politicienne, mais de se référer aux sources officielles.
Les politiciens utilisent la jeunesse pour que ces jeunes-là puissent les élire, mais en utilisant des formations qui sont fausses pour les en tirer vers eux.
Le Parlement de jeunes de l'Ituri, qui a pris part à ces assises, recommande à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à multiplier des messages de sensibilisation pendant tous les processus électoraux pour aider aux jeunes à être à l'abri à la désinformation. Ce qui, selon Gloire Abassi, son président, contribuera à un processus électoral apaisé.
Nous sommes en train de demander à la CENI de vulgariser également la loi électorale, les messages à la population par rapport à cette nouvelle technologie.
Cette sensibilisation va se poursuivre à d'autres couches de la population. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans la province du Kasaï, à quelques jours du début de la campagne électorale pour les prochaines élections, la présidente de la fondation Petit Don à l'Humanité et candidate aux législatives appelle à l'unité à Mweka. Ce territoire a toujours été le théâtre des conflits et des fortes tensions pendant la période électorale, souligne Marie-Claire Moutamba. Dans le cadre de la sensibilisation des communautés à la paix, Marie-Claire Moutamba a, au cours d'un échange le week-end dernier avec l'administrateur du territoire de Mweka, rappelé la nécessité de mettre à l'avant-plan le vivre ensemble. Ces propos ont été recueillis par François Kadima.
Nous avons lancé ensemble un message pour écho aussi son discours d'entrée de scène qui appelait toujours à l'unité, à Bobo-Moi. Surtout en ces moments précis, à Mweka, nous avons besoin de crier haut, de crier partout qu'il faudra de l'unité, il faudra la paix, il faudra dans les processus électoraux. Parce que c'est surtout pendant cette période, d'après les faits écoutés du passé, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de division. C'est surtout pendant cette période que les candidats orchestrent beaucoup de messages de division parmi eux. Nous voulons maintenant que tous les candidats à Mweka, nous savons que le message du président, lui, il est l'unité. Alors, nous avons dit, nous disons à tout le monde, s'il y a quelqu'un qui vient avec un message de séparation, on ne peut pas être pour l'unité, en même temps, on est pour la division. Ça ne peut pas se faire. La lumière et l'ombre ne se mettent pas ensemble.
Et puis, le collectif des ONGD pour une agriculture durable en RDC, QUAD, en sigle, a lancé hier dimanche à Kinshasa En collaboration avec le ministère de l'Agriculture, une campagne de sensibilisation des agriculteurs familiaux pour lutter contre la dépendance alimentaire extérieure. Dans un point de presse tenu en marge du forum d'échange qui sera organisé à Kinshasa au cours de cette semaine pour mettre sur pied les stratégies à même d'atteindre cet objectif, le président national de COAD a signalé que les partenaires extérieurs ont déjà disponibilisé un financement pour ce faire pour les 5 ans qui suivent. Faustin Bouhendoua appelle également les agriculteurs familiaux congolais à se mettre ensemble pour capitaliser les 12% du budget 2024 alloué à l'agriculture, estimé à plus ou moins 1,6 milliard de dollars. On l'écoute au micro de Radio Okapi.
Nous avons adopté l'approche qui va plutôt vers les familles des agriculteurs, ou qu'on appelle agriculteurs familiaux. On vient vers eux, nous on les accompagne, on est proche d'eux, on les finance, on suit, on les aide à aller en formation d'échange. Puis on veut créer des petites coopératives, des petites banques agricoles dans chaque territoire. Et à cela, l'agriculteur pourrait accéder à des petits crédits. Et ça, ça pourrait aider aux gens de produire en grande quantité, en qualité, et tout en respectant l'environnement. Et surtout, comme on veut ressusciter le système ancien, la RDC exportait 300 espèces de produits. Aujourd'hui, c'est réduit à 3 espèces. Nous voulons qu'on revienne dans 2 ans à même à 100 espèces de produits qu'on doit exporter. Ça va ramener des devises au gouvernement. On a vu que les grands projets que le gouvernement a montés n'ont pas donné de bons résultats. Avec l'expérience qu'on a, dans des pays voisins ailleurs, des petits producteurs amènent le pays à augmenter son PIB. En mercredi prochain, nous avons un forum d'échange d'expérience entre tous les ONG qui sont engagés dans l'agriculture, tous ceux-là qui sont partenaires du ministère de l'Agriculture. Le mercredi, on les appelle à venir pour que nous puissions conjuguer l'intelligence dans la salle de Wallonie-Bruxelles.
Actualité internationale.
Au Cameroun, le parti au pouvoir, le RDPC, célèbre ce lundi en grande pompe à Yaoundé le 41e anniversaire de l'accession à la présidence de Paul Biya. Arrivé aux commandes le 6 novembre 1982, l'ancien premier ministre a succédé à Amadou Ahidjo, le premier président qui s'était retiré pour des problèmes de santé après 22 ans de règne. Affaibli par le poids de l'âge, sa dernière apparition publique remonte à juillet dernier lors du sommet Russie-Afrique à Pétersbourg. Alors qu'une partie du Cameroun jubile et salue la longévité de Paul Biya, des larges pans du pays se révoltent, en l'occurrence les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Au Burkina Faso, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples s'insurge contre une vague de réquisitions des citoyens pour la guerre. Dans un communiqué, le mouvement dénonce l'enrôlement massif de personnes ciblées par le pouvoir militaire en place pour la lutte contre le terrorisme. Une réquisition en application du décret sur la mobilisation générale et la mise en garde adoptée en avril dernier.
L'invité.
Notre invité est le professeur Catherine Alirissasi Aloua, médecin directeur intérimaire de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. Elle nous parle de la mise en œuvre du programme de gratuité de la maternité au sein de cette structure étatique. Docteur Catherine Alirissasi s'entretient avec Babel Mpongo-Massimango et Merveille Assani.
Docteur Catherine Alirissasi, bonjour.
Bonjour madame.
Dites-nous, est-ce que le programme de gratuité de la maternité est appliqué ici à l'hôpital général de Kinshasa?
Effectivement, le programme est d'application depuis le 5 septembre. Les dames peuvent venir consulter notre hôpital, accoucher gratuitement et la prise en charge se fait également gratuitement.
Quand vous dites que c'est gratuit, en fait, c'est quoi qui est gratuit?
On sait tous que pour une grossesse, la dame doit suivre les consultations prénatales. Donc la femme qui nous arrive ou qui nous est transférée n'achète pas la fiche de consultation, n'est pas interpellée pour son partogramme dans le dossier qui doit être là. Et s'il faut accoucher normalement, si c'est un accouchement normal qu'on appelle une autopsie, elle est prise en charge jusqu'à la fin. Quand le bébé est normalement né sans problème, elle a un séjour très court de 3-4 jours. Mais quand le nouveau-né présente des complications ou une pathologie infectieuse, il est automatiquement transféré vers le département de pédiatrie au service de néonatologie pour une prise en charge prématurité ou autre pathologie.
Et là, c'est l'accouchement normal. En cas de complication, par exemple, on doit arriver à une césarienne.
En cas de césarienne, on fait intervenir le département d'anesthésie réa et la dame est totalement prise en charge. S'il y a un problème surajouté, d'hémorragie ou autre, notre banque de sang intervient pour donner une unité de sang.
Quels sont les problèmes auxquels vous êtes, l'hôpital est confronté pour la bonne prise en charge des malades dans le cadre de ce programme de gratuité?
Le seul problème qu'il y a, on reçoit deux fois des patients qui viennent pour d'autres pathologies et pour d'autres départements et qui vous imposent la gratuité. Et c'est là où nous avons des problèmes. Alors on se demande si le message est bien passé dans la population pour certains, parce qu'on a eu un cas pour un patient qui vient pour une pathologie en réanimation mais qui exige obligatoirement la gratuité. Mais pour le reste, c'est la promptitude dans la conciliation de ce que vous devez obtenir pour assurer cette gratuité. Mais jusque-là, on a eu le passage de ceux qui nous accompagnent.
L'hôpital va être payé. Est-ce que c'est déjà le cas?
Oui, c'est déjà le cas. On a eu un petit retard dans la conciliation lors du démarrage et de l'approvisionnement. Mais les autorités qui s'occupent de la chose sont passées. C'est même nous qui sommes en retard pour transmettre nos factures. Parce qu'il faut contrôler, s'assurer que ce sont des vrais cas et contrôler chaque facture. Parce que le malade est facturé individuellement. Comme d'habitude, nous n'avons pas arrêté avec cette routine. Pour le mois de septembre, ça a été fait. Et avant le 5 du mois prochain, nous devons le faire pour le mois d'octobre.
Oui. L'hôpital général avait un problème, hein, notamment avec des patients qui venaient pour des soins, pour des accouchements notamment, et c'était des patientes insolvables qui étaient retenues d'ailleurs ici. Est-ce qu'avec ce programme, ce problème-là est résolu?
Moi, je pense que c'est résolu parce qu'il nous est impossible de garder encore une dame comme ça se faisait auparavant, d'autant plus qu'on sait qu'elle est déjà prise en charge. Donc, nous ne faisons qu'assurer les soins et on la libère. Et à l'époque, on pouvait avoir 60 à 70% des parturientes qui ne payent pas, qui sortent gratuitement ou qui s'évadent même. Et ce n'était pas facile pour nous.
Un message aux femmes enceintes d'ailleurs, leur famille et tout ça qui vont vous suivre. Quel message vous avez à leur transmettre par rapport à l'application de ce programme ici à l'hôpital général?
Évidemment, il y a des femmes qui ne savent pas que l'hôpital fonctionne comme nous sommes en reconstruction. Mais moi, je leur dis que l'hôpital n'a jamais été fermé. Nous avons continué à fonctionner en dépit des nouveaux bâtiments qui sont en train d'être érigés pour le nouvel hôpital. Nous sommes là, nous les recevons toutes et c'est toujours mieux de commencer les CPN là où les conditions sont assez réunies pour un bon suivi. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? On nous transfère beaucoup de cas qui ont présenté des complications et qui ont traîné à la cité. Et quand ça arrive ici, la prise en charge devient un peu plus lourde. Surtout pour les grossesses à risque. Les femmes pour lesquelles une césarienne a été indiquée ou qui devient une option, ou alors pour les femmes qui présentent déjà des pathologies au cours de la grossesse, c'est mieux de consulter à temps, c'est gratuit.
Merci beaucoup, docteur Catherine Ali Rissassi.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invitée, docteur professeur Catherine Ali Rissassi Aloua, médecin directeur intérimaire de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, qui s'entretenait avec Babel Mpongo Massimango et Merveille Assani. Fin de cette édition qui a été mise en onde par Pierre Diassounoua, coordonnée par Élisée Tikota et supervisée par Martin Seboujangoué. Je vous en rappelle les principales articulations. D'abord, cette mise en garde du ministre provincial de l'économie dans le Congo central en rapport avec la vente à Matadi d'une cargaison de riz déclarée impropre à la consommation. Les services de sécurité poursuivent la traque du riz non conforme destiné à la destruction, mais déchargé clandestinement dans un village situé entre Matadi et Boma. Au Nord Kivu, des affrontements ont repris ce lundi dans la matinée entre la coalition des groupes armés locaux et les rebelles du M23 à Kibumba et Buhumba en territoire de Niragongo. Pendant ce temps, une accalmie précaire s'observe dans les territoires de Masisi après une journée d'intenses combats entre les deux protagonistes. Notre invité était le professeur Catherine Ali Rissassi Aloua, médecin directeur intérimaire de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. Elle nous parlait de la mise en œuvre du programme de gratuité de la maternité au sein de cette structure étatique. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi.